Bonjour à tous, bienvenue dans le 8h30 politique, votre grand rendez-vous politique du samedi matin. Ça se passe sur France Info. Ensemble, on va passer en revue l'actualité politique de la semaine. Tout à l'heure, comme Paul, la communication politique passée à la loupe d'Antoine Baillet. Antoine Baillet, donc, comme on le retrouve chaque semaine, bien sûr. Notre invité ce matin, c'est Nathalie Arthaud, la porte-parole de Lutte Ouvrière, qui tient sa fête annuelle tout ce week-end à Presles, dans le Val-d'Oise. Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Côté Yannick Falt du service politique de France Info pour la première question.
Et on écoute d'abord le président américain Donald Trump.
Pour tenir mon engagement, remplir mon mandat de protéger ce pays et ses habitants, les États-Unis se retireront de l'accord climat de Paris. Donc nous sortons, mais nous reprendrons les négociations. Si nous y arrivons, tant mieux. Sinon, tant pis.
Que vous inspire le retrait américain de l'accord de Paris ?
C'est grossier, c'est irresponsable et c'est stupide. Et en même temps, ce que dit Donald Trump, business d'abord, hein, les affaires avant tout, c'est ce que reconnaissent aussi tous ceux qui ont signé, ratifié les accords de Paris. La réalité, c'est ça, parce que la COP21 a quand même a débouché sur un accord qui n'avait rien de contraignant, y compris il n'y avait même pas de plafonnement des émissions de gaz à effet de serre, parce que justement les grands groupes industriels, pétroliers l'avaient demandé.
C'est-à-dire que vous contestez vous-même la légitimité de l'accord de Paris ?
Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hypocrisie. Bien sûr, il faudrait faire passer l'intérêt, la protection de l'environnement, l'air de la planète, les droits aussi des travailleurs avant toute chose.
Mais il faut quand même l'appliquer, du coup, cet accord.
Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que tout est fait pour ne pas gêner le business, et c'est vrai, et ça a été défendu par tous les grands dirigeants de la planète, pas seulement par Donald Trump. Alors lui, si vous voulez, c'est la caricature. Il pousse à l'extrême cette logique-là. En fait, il la revendique, alors que les autres laissent faire.
Mais si ça ne gêne pas le business, comme vous dites, pourquoi Donald Trump se retire de l'accord de Paris ?
Mais parce que, vous savez, d'abord, vous aurez remarqué que les grands groupes pétroliers, ExxonMobil en premier lieu, tous les grands groupes capitalistes américains lui ont dit c'est n'importe quoi, on peut rester dans les accords de Paris, en réalité on peut faire avec, parce que ces accords ont été faits sous le lobbying de ces groupes. Et la réalité, c'est qu'ils ont contrôlé tout le processus et ils sont dedans. Vous savez aussi d'ailleurs que l'écologie, c'est devenu un gros gâteau pour beaucoup de groupes capitalistes. Donc, plutôt que d'être en dehors et de laisser passer tous ces marchés, oui, ils préféraient être en dedans. Mais moi, je crois que c'est pas comme ça qu'on peut véritablement résoudre les problèmes écologiques qui se posent aujourd'hui à la planète.
Alors, malgré tout, les États-Unis assurent qu'ils vont continuer à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Vous y croyez ?
J'y crois ni plus ni moins que les engagements qui sont pris par la France ou par l'Allemagne ou par la Chine. Vous savez, on sait très bien, et on le voit même en ce qui concerne, encore une fois, les conditions de vie, les conditions de travail des salariés. C'est toujours la priorité à la compétitivité, à la rentabilité, à l'argent dans cette société. C'est le cœur même de ce système capitaliste. Donc tant qu'on ne le remet pas en cause, eh bien oui, moi je ne leur fais crédit d'absolument rien.
Est-ce que vous pensez que l'engagement des villes, des citoyens, des entreprises au niveau des États-Unis peut être suffisant ? C'est ce que Michael Bloomberg, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le climat, a assuré hier. Il était reçu par Emmanuel Macron.
Non, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une volonté de la population, il y a une mobilisation autour de ce problème. Et tout le monde se rend compte qu'effectivement, il y a une vraie impasse, une vraie catastrophe qui est en train de se rouler là, qu'on est en train de vivre. Et je suis frappée par le décalage entre cette conscience des femmes et des hommes et le fait que l'on n'organise pas notre économie et que cette économie, dominée évidemment par les grands groupes industriels et financiers, est finalement laissée aux aléas du marché, à la concurrence, aux centaines de milliers d'initiatives parfois contradictoires et débouche sur un véritable gâchis, sur un gaspillage des ressources, sur des transports ahurissants. Enfin, voilà, il y a un problème d'organisation de cette économie. Et c'est la raison pour laquelle moi je défends l'idée qu'il faudrait mettre en commun, collectiviser ces grands groupes industriels et financiers, planifier l'économie, anticiper, répondre d'abord et avant tout aux besoins de la population, en veillant justement, en veillant à l'utilisation correcte des ressources dont on dispose.
Alors vous portez, vous, lutte ouvrière, un regard plutôt bienveillant sur le nucléaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'objectif gouvernemental en France de faire passer la part d'électricité d'origine nucléaire de 75 à 50% d'ici 2025?
Non, mais vous vous trompez, on n'a pas de regard spécialement bienveillant sur le nucléaire. Ce qu'on dit, c'est que quelles que soient les sources d'énergie, hein, il y a des avantages, des inconvénients, mais surtout, hein, la façon dont elles sont organisées, eh bien, elles échappent au contrôle de la population et au contrôle, y compris des salariés de tous ces secteurs. Et nous, la priorité, avant de discuter telle ou telle énergie contre une autre, eh bien, nous revendiquons le droit des salariés, le droit de la population, des habitants qui sont autour de ces centrales nucléaires, justement, et mais autour aussi d'autres installations industrielles, hein, parce qu'on se souvient aussi quand même de l'explosion d'AZF à Toulouse, c'était pas du nucléaire, mais ça a quand même fait 31 morts. Donc on revendique le droit de la population de pouvoir contrôler. Et cela, oui, ça veut dire contester, hein, la toute-puissance de la propriété privée capitaliste sur ces entreprises.
La fermeture de la centrale de Fessenheim qui est programmée aujourd'hui, vous y êtes favorable ou pas?
Moi, je pense que la façon dont tout cela s'organise et est fait n'est pas normal et doit être contesté, parce que rien n'est prévu pour les salariés, rien n'est prévu pour la population, pour cette ville. Alors les actionnaires d'EDF, eux, ils sont protégés. L'État a déjà mis au pot un certain nombre de millions, 140 millions si mes souvenirs sont bons. Alors là, pour ça, on anticipe, il n'y a pas de problème. Mais pour gérer le devenir, l'avenir donc des femmes et des hommes et les salariés, et rien n'est fait. Donc c'est ça que je conteste.
Fermeture pour ou contre?
Moi, je pense que tôt ou tard, il faudra bien sûr les fermer, mais ça doit être fait en prenant en compte les intérêts des femmes et des hommes.
Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière, reste avec nous. Le 8h30 politique continue dans un instant, mais d'abord, on fait un point sur l'info à 8h40 avec David Daubin.
On l'évoquait à l'instant, des maires, des gouverneurs, des présidents d'universités, des patrons d'entreprises, tous sont prêts à s'engager pour remplir les objectifs américains en matière de climat. N'en déplaise à Donald Trump, c'est l'annonce faite hier à Paris par Michael Bloomberg. L'ex-maire de New York, qui est désormais émissaire de l'ONU pour le changement climatique, annonce que sa fondation va débourser 15 millions de dollars, équivalent à la contribution que devaient apporter les États-Unis à l'organisation. L'avion de Thomas Pesquet s'est posé cette nuit à Cologne, en Allemagne. C'est là que se trouve le centre spatial européen. Le Français, visiblement très éprouvé, y a retrouvé sa compagne. Il doit désormais subir une batterie d'examens médicaux. L'Allemagne au cœur de toutes les attentions par ailleurs, puisque la police locale a fait évacuer un festival de rock hier soir. 90 000 personnes attendues. Les autorités redoutaient qu'il soit le théâtre d'un attentat. Les concerts pourraient reprendre dès ce soir. On passe au sport. 5-0, triplé de Giroud, but de Sissoko et un autre de Griezmann. Les Bleus ont écrasé le Paraguay en match amical hier soir. Les choses devraient se compliquer la semaine prochaine contre la Suède dans le cadre de la qualification au Mondial 2018. Et puis un petit tour et puis s'en va. Le défi français barré par Franck Camas, battu hier lors du deuxième tour de qualification de la Coupe de l'América, 35e édition du genre aux Bermudes. Une défaite synonyme d'élimination pour les tricolores.
France Info. Le 8-30 politique continue sur France Info avec notre invitée, la porte-parole de Lutte Ouvrière, Nathalie Arthaud. Yannick Falt, on en vient à l'actualité sociale.
Tati, Whirlpool, GMS, les plans sociaux se multiplient. L'État ne peut pas faire de miracle, dit le nouveau ministre de l'économie Bruno Le Maire. Est-ce que vous considérez que la réponse aujourd'hui du gouvernement est à la hauteur des enjeux?
Non, mais le gouvernement qui a été mis en place par Emmanuel Macron est un gouvernement de combat contre les travailleurs. Et ce gouvernement va accéder à tous les désirs du grand patronat, clairement. Donc si ces groupes veulent fermer, veulent se délester de telle ou telle activité, veulent délocaliser, veulent supprimer des emplois, ils le feront avec la bénédiction du gouvernement. C'est ça qui va se passer. Et voilà, j'en veux pour preuve la première mesure quand même que ce gouvernement a prise, la suspension du compte pénibilité. C'est quand même complètement fou. Le gouvernement a suspendu, fait un moratoire donc sur ce compte pénibilité parce qu'il était trop pénible pour les patrons. De faire de mesurer comment le travail est effectivement difficile, esquinte la santé des salariés. Alors voilà, c'est le monde à l'envers.
Alors justement, le projet économique d'Emmanuel Macron pour ses détracteurs, vous en faites partie, c'est l'ubérisation totale de la société, un libéralisme sans garde-fou. Voilà ce qu'en pense Jean-Luc Mélenchon, il l'a répété pendant toute la campagne présidentielle.
L'ubérisation, c'est rendre la vie pourrie des gens, c'est revenir au 19e siècle, ça s'appelait travailleur à la tâche. Tu travailles, on te paye et tu te débrouilles pour te payer tout le reste. T'as pas de droits sociaux. T'as pas de possibilité de vivre comme tous les autres. Voilà ce que c'est l'ubérisation.
On a l'impression que ce sont des propos que vous pourriez tenir.
Ah, je suis tout à fait d'accord avec la dénonciation que fait Jean-Luc Mélenchon. C'est pas là-dessus que portent nos différences. Nos différences et même en fait nos divergences profondes sont sur le fait qu'on ne pourra pas changer cela en changeant de président de la République. C'est un ordre social qui est basé sur la concurrence et qui fait que les salariés sont opposés les uns aux autres, sont individualisés, sont dressés les uns contre les autres. C'est cette politique-là que poursuit Macron, parce que dans sa casse du code du travail, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut encore plus fragmenter. Il veut que chacun réfléchisse en se disant « je suis à mon compte et je suis seul, je dois me débrouiller tout seul ». Donc en fait, là, il mène un combat pour démolir encore un peu plus la conscience de classe.
Et moi, je suis convaincue que... Donc pour vous, il n'y a que la révolution qui peut changer ça ou
moi, je pense que c'est
pas en changeant de président, qu'est-ce qu'il faut faire du coup?
Moi, je pense que toute la question... C'est la conscience de classe, effectivement, du monde du travail. Et cette conscience, qu'en se battant collectivement, en faisant pression sur le grand patronat, au travers des grèves, au travers des manifestations, il peut, oui, changer son sort. Parce qu'on nous explique que c'est à l'Élysée, à Matignon, à l'Assemblée nationale qu'il y a le pouvoir. Mais le véritable pouvoir dans cette société, c'est le pouvoir de l'argent. C'est le pouvoir de ces grands groupes capitalistes qui ont le pouvoir de nous donner ou pas un boulot, de nous verser un salaire. Ils décident de notre retraite, ils décident de tout pour nous.
Alors, donc,
ce pouvoir-là, il faut l'affronter sur le terrain effectivement social.
Vous parliez de la réforme du code du travail qui est l'une des priorités du quinquennat Macron, oui. Avec la priorité donnée aux accords d'entreprise sur les accords de branche, le plafonnement des indemnités prud'homales. Vous en pensez quoi?
Bien sûr que je le dénonce tout ça. Et puis, je trouve absolument dingue qu'on nous brandisse encore cette histoire du code du travail. La réalité, c'est qu'on est encore dans la crise. Qu'on s'y enfonce dans la crise. La réalité, c'est que beaucoup de petites entreprises pâtissent du fait que les salariés n'ont plus de pouvoir d'achat, que leur clientèle a baissé, sont confrontés à l'étranglement des banques. Et qu'est-ce qu'on nous sort? On nous sort encore le code du travail. On nous sort encore ces discours sur la flexibilité et je ne sais quoi. Toujours, il s'agit de taper sur les travailleurs, sur leurs conditions de travail, sur leurs conditions de vie, de faciliter les licenciements. Voilà, il n'y a que cette politique-là qui est réaliste dans le cadre de ce système. Donc évidemment, nous allons nous y opposer.
Sur la forme, le fait de procéder par ordonnance, c'est un gage d'efficacité ou un passage en force?
Non mais évidemment, il veut aller vite, il a déjà sonné la charge, ils sont déjà en ordre de marche, en ordre de bataille, ce gouvernement, clairement. Donc nous, les travailleurs, il ne faut pas qu'on perde de temps, et y compris dans cette campagne législative, moi j'appelle les électeurs à dire leur conscience que oui, ils vont être attaqués et qu'ils sont prêts à se défendre, qu'ils ne se laisseront pas faire. Et c'est la raison pour laquelle voter pour les listes Lutte ouvrière, c'est affirmer qu'il y a un courant qui est prêt justement à la bagarre.
Vous disiez le problème c'est la crise. Qu'est-ce que Lutte ouvrière propose concrètement pour relancer l'économie, pour créer des emplois?
C'est la crise du capitalisme, effectivement. Elle n'est pas nouvelle. En réalité, elle remonte aux années 70. On est au bout du rouleau. Enfin, c'est un système qui est vraiment en train de s'épuiser.
Et ce qu'on propose, vous feriez quoi, justement, au niveau
économique? Ce qu'on propose, tout simplement, c'est d'utiliser les richesses qui existent dans la société. Parce que, vous voyez, il y a quand même aussi une espèce d'escroquerie. Parce qu'on nous parle de crise, de sacrifice, mais en même temps, il n'y a jamais eu autant de moyens de produire des richesses, il n'y a jamais eu autant de modernité, de progrès technique, il n'y a jamais eu autant d'argent dans la société. Donc nous nous proposons tout simplement de faire en sorte que ces profits, que cette richesse, c'est les fortunes qui sont accumulées, qui sont aberrantes. Aujourd'hui, il y a 21 milliardaires en France qui l'équivalent de ce qu'ont 25 millions de femmes et d'hommes. Nous proposons que ces fortunes, que cet argent, ces profits, ils servent à répartir le travail entre tous. Il y aurait moyen de permettre à tous d'avoir un emploi, un salaire correct, une retraite digne.
Vous appelez un mouvement social de grande ampleur face à cette réforme, des grèves, des manifestations?
Mais bien sûr, il va falloir résister. La véritable opposition, elle ne sera pas à l'Assemblée. Elle sera dans les rues, elle sera dans les entreprises, elle sera dans les quartiers populaires. Et elle dépendra effectivement de la volonté du monde du travail de ne pas se laisser faire. Et ça, encore une fois, c'est une question de conscience politique, de conscience de classe. Donc de renforcer un courant qui exprime ce camp, le camp des travailleurs.
Il nous reste 2 minutes avant le rappel de l'info. Autre actualité de la semaine, Yannick, la loi sur la moralisation de la vie politique publique.
Oui, c'est le premier texte du quinquennat avant même la réforme du Code du travail, présenté cette semaine par François Bayrou, le garde des Sceaux.
Il ne s'agit plus de se prononcer sur tel ou tel comportement individuel, ni d'adopter des demi-mesures. Le véritable enjeu est d'adopter une démarche globale de nature à restaurer la confiance des citoyens dans l'action publique.
La confiance des citoyens dans l'action publique, ça doit vous faire rêver, non ?
D'abord, ça me fait sourire parce que on a eu toute cette comédie du renouvellement avec Macron. La vie politique allait se régénérer. Et en fait, ce qu'il y a de nouveau avec ce gouvernement, ce sont les noms des responsables politiques qui sont visés par la justice. Voilà le renouvellement en réalité. Et cette loi de moralisation, écoutez, elle va ça continuera parce que la réalité, c'est que et moi, je suis frappée d'ailleurs par tous les débats qu'il y a aujourd'hui, vous savez, entre qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est légal et comment faire la part des choses, etc. Parce que moi, je crois qu'il n'y aura pas de moralisation de la vie politique du moment que toute l'économie, toute la société, elle est fondée sur l'exploitation et sur les injustices et les inégalités.
Donc il n'y a pas de morale dans cette société. On va parler du concret de la loi avec Antoine Baillet dans un instant. On a évidemment beaucoup parlé encore de Richard Ferrand cette semaine. Enquête préliminaire ouverte par le parquet de Brest. Est-ce qu'il doit démissionner pour vous ?
Non, mais moi, je ne leur demande rien. Moi, je pense que il faut que les travailleurs ils fassent pression et qu'ils revendiquent le contrôle, effectivement, non seulement sur leurs élus, le contrôle, la révocabilité sur les élus, mais aussi le contrôle sur ce qui se passe dans les entreprises. Parce que la réalité, c'est que nous, à la base, on fait tout tourner, on est à l'origine de toutes les richesses, de tous les progrès, et on ne fait que subir des décisions qui viennent d'en haut. Donc il faut inverser ça. Donc oui, ça changera à partir du moment où les travailleurs imposeront leur contrôle collectif.
Nathalie Arthaud, restez avec nous. Le 8.30 politique continue dans un instant, dans une minute, avec Antoine Baillet pour Comme Paul, la communication politique passée à la loupe. Mais d'abord, il est 8h50, l'info, David Daubin.
Ça ne va pas changer grand-chose pour lui, sauf que c'est désormais sur Terre que Thomas Pesquet va être observé dans les moindres détails. Le Français est arrivé au Centre Spatial Européen cette nuit. Il se trouve à Cologne. Il doit désormais subir une batterie d'examens médicaux. Contourner les décisions de Donald Trump, c'est l'objectif d'un grand nombre de responsables américains. Parmi eux, Michael Bloomberg, était de passage à Paris hier. L'émissaire de l'ONU pour le changement climatique a assuré que les villes et les citoyens américains satisferont les engagements des États-Unis. Des émeutes hier soir. Dans les rues de Pau, entre 50 et 100 personnes ont allumé des feux avec des pneus sur l'artère qui mène au centre-ville. Les manifestants de la communauté des gens des voyages réclamaient la libération du frère d'un Palois abattu mardi soir à Toulouse. Ces obsèques doivent se dérouler aujourd'hui. Après avoir marqué la Ligue des Champions comme joueur, Zinedine Zidane peut désormais la marquer comme entraîneur. Pour la première fois depuis près de 30 ans, un entraîneur est en mesure de conserver son titre. Seule condition que le Real Madrid s'impose ce soir, en finale donc face à la Juventus Turin. Coup d'envoi depuis Cardiff à 20h45. Et puis une affaire vite expédiée au Palais des Sports de Paris hier. Le Français Tony Yoka a débuté sa carrière professionnelle de la plus belle des manières. Le médaillé d'or de Rio chez les super lourds s'est imposé sur l'Américain Travis Clark. 2 rounds seulement et un arrêt de l'arbitre.
France Info. Le 8.30 politique continue avec notre invité Nathalie Arthaud, avec Yannick Fall du service politique et avec maintenant Antoine Baillet. Bonjour Antoine.
Bonjour Jules.
Pour Comme Paul, la communication politique à la loupe, on va commencer par parler anglais.
Oui, Nathalie Arthaud, je vous emmène dans la nuit de jeudi à vendredi. Il est 23h35. Donald Trump a annoncé 2 heures plus tôt qu'il se retirait des accords de Paris. Emmanuel Macron prend la parole depuis l'Élysée, une première fois en français. Et puis après ça, il va se passer ceci.
We will succeed. Because we are fully committed. Because wherever we live, whoever we are, we all share the same responsibility. Make our planet great again.
Alors, je vais être très cash dans ma question. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça a de la gueule, un président qui parle, un président français qui s'adresse en anglais aux Américains depuis l'Élysée ?
Écoutez, je sais qu'on a commenté pendant des minutes, enfin 10 minutes, des heures, la poignée de main de Macron avec Trump. Je ne vais pas commenter pendant des heures l'accent d'Emmanuel Macron.
Non, ce n'est pas la question, hein, ce n'est pas l'accent. C'est bon. Le choix de s'adresser depuis l'Élysée en anglais directement aux Américains.
Bon, mais je veux bien qu'il y ait des symboles, je veux bien qu'il y ait, etc. Mais la réalité de la politique qu'il y a derrière, des calculs, etc., moi je peux vous dire que je les dénonce. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup d'hypocrisie quand Emmanuel Macron se fait le défenseur de la planète. Beaucoup d'hypocrisie.
Et vous pourriez parler aux travailleurs américains en anglais ?
Sure.
Je vous propose.
D'ailleurs, je leur parlerai en anglais parce qu'on a parlé de la fête de lutte ouvrière qui avait lieu aujourd'hui et nous avons des camarades américains qui parlent bien mieux que moi en anglais, mais qui sont communistes et qui sont présents à notre fête et avec qui, oui, je discuterai tout à l'heure.
Je vous propose de passer des États-Unis à la Russie. Je vais encore vous faire écouter du Emmanuel Macron, désolé, mais cette fois à Versailles, lundi, il tenait une conférence de presse commune avec Vladimir Poutine. C'est une séquence, c'est une conférence de presse assez solennelle. Il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire par là que les questions, les médias qui vont pouvoir poser des questions au président sont connus à l'avance, pas le contenu des questions, mais évidemment, il y a une répartition au préalable. Le moment que je vais vous faire écouter est un peu particulier. C'est une journaliste du site Russia Today en France qui interroge Emmanuel Macron et qui lui demande pourquoi les médias russes ont été blacklistés pendant la campagne présidentielle. On écoute.
Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins.
Alors, je décris la tête de Vladimir Poutine qui est à côté d'Emmanuel Macron. Il n'a clairement pas l'air ravi. Je vais reposer ma question, parce que vous l'avez évacué un petit peu rapidement pour le premier extrait. Ça a plutôt de la gueule, non?
Pourquoi ? Parce qu'en diplomatie, en général...
C'est un virage dans la diplomatie, dans les deux cas.
Non, ce n'est pas un virage. Tout ça, c'est... Et puis, il n'impose rien. Mais non, c'est pas ça, vous savez. Bon, moi, de toute façon... Je pense que c'est les grands, hein, entre eux, qui vont discuter entre eux, ils vont faire leurs petites affaires dans le dos des peuples, dans le dos du peuple russe, dans le dos du peuple français. C'est ça la réalité. Mon camp, c'est ni Vladimir Poutine ni Emmanuel Macron, ce sont les travailleurs de Russie, de France.
On en revient à la loi présentée, au projet de loi proposé par François Bayrou. Il y a tout un plan qui concerne le financement des partis politiques, notamment la création d'une banque de la démocratie. On écoute la manière dont François Bayrou le présente.
Je propose que nous mettions en place, que nous créions une banque de la démocratie qui aura pour mission de financer la vie publique en recherchant pour les formations politiques habilitées, en recherchant le meilleur moyen de financer leurs actions et leurs campagnes électorales.
Est-ce que vous pourriez être concerné avec Lutte ouvrière par le recours à cette banque de la démocratie pour financer vos campagnes ou pas du tout ?
Bah écoutez, d'abord, on finance nous nos campagnes avec nos propres moyens militants. On fait appel, on fait des souscriptions, on s'appuie sur les cotisations de nos membres, hein, parce qu'on n'a pas de généreux donateurs, à l'inverse d'Emmanuel Macron qui a eu des financements facilement du côté effectivement de la bourgeoisie, des mécènes qui contrôlent pour un certain nombre les médias. Donc nous, c'est un financement qui est militant. Maintenant, je dois vous dire que je suis un peu choquée d'ailleurs par tout ça, parce que si les banques ne font pas ce qu'elles devraient faire, prêter à l'occasion, on pourrait leur imposer. On pourrait quand même...
C'est l'échec des banques privées et il faudrait plutôt que l'État... oblige les banques privées à prêter de l'argent plutôt que de créer une banque.
Bien sûr, pour une campagne présidentielle où il faut avancer, je ne sais pas, 2 ou 3 millions, oui, bien sûr. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on crée une banque pour cela, alors qu'il y aurait besoin de créer sans doute une banque publique pour prêter à beaucoup de petits patrons, y compris aux travailleurs qui attendent de l'argent pour acheter leur logement, etc.
Dernière question très très rapide, puisqu'on parle d'argent, donc vous organisez ce week-end à Presles votre fête militante. C'est une opération qui est rentable pour vous, je crois.
Très peu, très peu. C'est surtout une opération qui permet, c'est surtout voilà, une rencontre militante. C'est simple, c'est fraternel, c'est populaire. Il y a de la culture, il y a des spectacles, il y a des discussions dans tous les sens.
Merci.
C'est pour partager du bon temps, mais non, financièrement, c'est pas le but visé du tout.
Merci beaucoup Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière. Merci à vous Antoine Maillet, merci à Yannick Falt. Restez avec nous sur France Info. L'information continue.
Vous êtes avec nous ici sur Facebook, vous nous regardez sur les réseaux sociaux.
Avec France Info, restez connectés à l'actualité sur tous vos écrans, à la télévision, Canal 27.